entres en tus mains l'occasion universelle. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, c'est une de vos compagnies au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mépris des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et c'est l'heure de Parole aux auditeurs, l'émission 100% interactive de Radio Tapi, une émission qui vous offre l'opportunité de vous exprimer sur des faits d'actualité qui vous intéressent. Comme chaque mardi de ce mois de juin, nous consacrons Parole aux auditeurs à la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Nous prenons l'aspect des perspectives d'avenir dans le domaine de la sécurité. La question, après 50 ans, selon vous, que faut-il faire pour renforcer notre armée? Une question assez sensible. Nous en parlons aujourd'hui parce que la sécurité est un bien public. Chacun d'entre nous a une part de responsabilité, un rôle à jouer, malgré que, comme le stipule la Constitution, les forces armées ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières, et en temps de paix, elles participent au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. Et comme d'habitude, nous avons besoin des propositions, des suggestions constructives, en toute courtoisie, sans tomber dans le secret d'État ou de défense. Et pour en parler, nous avons invité pour vous M. Mohamed Boulay, le député national et général à la retraite des forces armées de la RDC. Sitting Poutou, Nicole Gaka sont à la réalisation de cette émission et Guimain Dango est à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs.
Encore une fois, bonjour et aujourd'hui nous parlons des perspectives d'avenir dans le domaine de la sécurité dans le cadre de nos émissions sur le cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Précisément aujourd'hui nous parlons de nos forces armées, un sujet assez sensible et délicat, mais on en parle aujourd'hui parce que la sécurité est un bien public et chacun d'entre nous a une part de responsabilité, un rôle à jouer, malgré que la Constitution en fait stipule que les forces armées ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et des frontières en temps de paix, ces forces, l'armée participe au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens, sans oublier aussi que la police est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Et l'armée, sur demande de la police, peut lui venir en aide. Et aujourd'hui, nous avons besoin, en fait, des propositions constructives. Nous savons tous que l'armée, comme tout, dans tous les autres secteurs de la RDC, tous les secteurs, tous les domaines, a connu aussi une crise. L'armée, pour l'instant, est en pleine reconstruction et en son sein, elle est formée par plusieurs groupes armés, même les forces républicaines. Aujourd'hui, c'est dans un cadre de brassage en train de la rendre homogène et la rendre plus républicaine. Et la question, après 50 ans selon vous, que faut-il faire pour renforcer notre armée? Bonjour Jules.
Bonjour.
Jules, vous êtes à Bouignan, on vous écoute. Pour vous, de votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer notre armée?
À mon avis, ce qu'il faut faire pour renforcer notre armée, c'est ceci. Nous sommes des jeunes, nous sommes appelés des étudiants, comme moi. J'ai terminé mes études secondaires en 2006. Je suis allé faire l'ISTEM, j'ai terminé, je suis infirmier dans un centre de statut de référence. Alors, ce que moi je vois dans notre pays, c'est ceci. Pour que notre armée soit forte, ça ne demande pas les hommes, parce que le Congo est rempli de jeunes garçons très forts et très intelligents. Ce qu'il faut faire, il faut qu'on ait des autorités sincères et dignes. Pour que ces autorités-là, surtout ce mélange, surtout c'est associer la rigueur avec la motivation. Surtout bien motiver les soldats et surtout se mettre la rigueur dans l'armée. C'est seulement là que nous allons gagner des passages. Mais si on ne motive pas des militaires, on est là seulement pour stationner les militaires en cas de problème. Ça sera difficile. Il faut qu'on puisse bien motiver et qu'on puisse prendre les jeunes diplômés, qu'on puisse bien les motiver et les scolariser dans des écoles modernisées de l'armée. C'est à ce moment-là que notre pays sera bien sécurisé. On ne peut pas prendre les bandits. En fait, notre armée est devenue le quoi? Le refuge, le lieu de refuge pour les bandits.
C'est ce qui est devenu
un problème. C'était le coup de l'armée pour se cacher.
Merci Jules pour vos propositions. Vous pensez qu'il faudrait des autorités sincères, dignes de la rigueur, de la motivation et aussi une bonne formation. Merci pour votre participation. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Vous êtes à Calémie, on vous écoute.
Oui, bon, généralement nous on estime que actuellement si on pouvait avoir une armée forte et qu'on pouvait avoir une bonne sécurité dans notre pays, il faudrait que les autorités du gouvernement pensent à l'encadrement des militaires. Parce que généralement, nous estimons que nos militaires ne sont pas encadrés convenablement. On ne peut pas vouloir entendre les résultats de ces militaires si on ne les encadre pas. Donc, il faudrait que les autorités s'interpellent par rapport à leur façon d'encadrer les militaires. Quand on parle de l'encadrement, il y a par exemple les logements. Il y a par exemple les salaires, il y a les indemnités familiales, la prise en charge pour le soin de ces militaires. On voit que les militaires aujourd'hui dans notre pays sont abandonnés complètement par le gouvernement, ce qui fait qu'ils se retrouvent en train de faire n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas encadrés. Vous voyez que les militaires logent aujourd'hui dans les quartiers des civils. Ils arrivent avec les armes dans ces quartiers, c'est toujours trop dangereux. Il y a plus de temps pour les militaires et que les gouvernements les soucient même pas.
Oui. Donc, Bruno, quand vous dites qu'il n'y a plus de camps, est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop dire? Oui, il y a des camps, mais ce n'est pas assez suffisant ou bien ce n'est pas vraiment réhabilité pour qu'il y ait des conditions assez adéquates. Quand vous dites qu'il n'y a plus de camps, c'est un peu trop, Bruno.
Bon, moi, par exemple, ici chez nous, on avait deux camps militaires, mais il y a un camp qui est déjà détruit et celui qui existe pour le moment est devenu presque, ne peut pas abriter tous les militaires qu'on a. Donc il faudrait que le gouvernement songe aussi à construire des camps et à éloigner peut-être ces camps-là de la population parce que les camps sont maintenant dans les quartiers presque environnants de la population. Donc ça sera vraiment difficile que les militaires cohabitent ensemble avec la population parce que les militaires, comme on le voit dans les autres pays, sont vraiment isolés pour permettre à ce que tout ce qui se fait soit quand même un secret militaire.
Merci Bruno pour votre participation, un bon encadrement, améliorer le logement, la solde aussi, essayer de voir dans quelle mesure éloigner les camps militaires dans les résidences publiques, privées de la population. Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Arsène, vous êtes à Kikwit, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour renforcer notre armée?
Ok. Je voulais d'abord commencer par préciser mon nom, Arsène Chakiaï. Alors, pour notre armée, moi je pense ceci. Toute armée, pour être efficace, doit commencer d'abord par la formation. Nous avons connu la force publique, nous avons connu l'AMC, nous avons connu les forces armées aïroises, aujourd'hui nous sommes au FARDC. Si vous suivez bien l'évolution de notre armée, vous allez remarquer que plus nous évoluons, plus nous ne formons pas correctement nos militaires. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le manque d'infrastructures adéquates pour accueillir la formation militaire. Quelque chose qu'on doit penser, on doit s'investir là-dessus, parce que l'armée est la source, ou voire même l'identité de l'indépendance d'un pays. Si vous n'avez pas une bonne armée formée, en tout cas, vous ne serez jamais indépendant. Alors, ensuite de la formation militaire que nous trouvons qui est un peu en train de régresser considérablement, il y a la politisation de l'armée. L'armée ne peut pas être politisée, quelles que soient les phrases que nous pouvons prononcer. Sur les écrans, sur les ondes, en tout cas, ce que je constate moi à Seine, c'est que notre armée est tout le temps politisée au service des politiciens. S'il faut avoir une armée solide, il faut d'abord commencer par la formation, toucher sur le civisme du militaire. Dès que le militaire est bien formé physiquement, ensuite il y a la pratique même militaire. Nous avons connu des exploits. Aujourd'hui, notre armée doit être assistée par même des pays qui n'ont pas eu la taille de notre armée en formation, en équipement, en tout ce que ce soit. En troisième lieu, il y a la vie même du militaire. Qui va dans l'armée aujourd'hui? Vous verrez sur 10 personnes, 10 jeunes gens qu'on recrute, vous verrez là-dedans, excusez-moi un peu le chiffre que j'ai pu avancer, 60% ou 70%,
c'est pas des délinquants
qui n'ont rien à faire, qui vont s'habiller en tenue militaire pour faire la délinquance.
Oui.
Et les 30 autres, ce sont des gens qui vont faire vraiment la carrière. Aujourd'hui, je pense plutôt qu'il faut sélectionner sans courant politique, sans courant tribal, on sélectionne des gens capables et qu'on forme avec esprit de patriotisme. Mais je crois qu'en 2-3 ans, on peut avoir la base d'une armée.
Oui,
en deuxième position, excusez-moi madame,
oui, parce qu'il y a des
applicabilités même du militaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec le militaire? Alors, le militaire, quand il est armé, vous devez d'abord le soigner, vous devez l'encadrer et ensuite le mettre au service de la population. Si on ne le fait pas, on ne paye pas le militaire, on ne peut pas les loger. Vous savez ce qui se passe? Le militaire utilise son arme.
Oui.
Là maintenant, c'est l'insécurité qui se crée.
Oui.
C'est ce que nous voyons par-ci par-là, madame.
Oui, Arsène, il faudrait aussi ajouter que selon l'article 188 de la Constitution, on stipule en fait les forces armées de la RDC sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Mais aussi, il faudrait aussi ajouter que quand même notre pays a traversé plusieurs guerres. Aujourd'hui, nous avons une armée qui vient de plusieurs groupes armés, une fusion. On est dans le cadre de brassage, mixage, ainsi de suite. Donc, et il y a eu même le ministre de la Défense nationale qui était passé au niveau de l'Assemblée nationale pour un projet de loi sur la réforme de l'armée. Il a reconnu que notre armée a vraiment des problèmes et il a annoncé qu'il faudrait 10 ans pour pouvoir restructurer cette armée. Merci Arsène de tout.
Merci suite. Madame.
Bonjour Caroline, vous êtes à Colosie, on vous écoute Caroline. Caroline? On a perdu Caroline, nous poursuivons cette émission qui est consacrée au secteur de la sécurité notamment. Comment, que proposez-vous pour pouvoir reformer en fait l'armée, renforcer l'armée de la RDC?
Parole aux auditeurs.
On attend toujours de notre invité, M. Mohamed Boulet, il est député national et général à la retraite des forces armées de la RDC. Nous l'attendons encore, peut-être d'une minute à l'autre, il pourra faire son entrée dans ce studio. Nous avons déjà au bout du fil le sénateur Jack Joly. Bonjour, sénateur.
Bonjour, sénateur.
Vous avez initié dernièrement, au cours de ce mois de juin, une question orale avec débat au ministre de la Défense concernant vraiment la situation sécuritaire de notre pays et des questions assez pertinentes sur ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, nous parlons des forces armées de la RDC. Comment renforcer ces forces armées de la RDC? Nous avons eu plusieurs propositions. Dites-nous un peu tout ce qui vous a en fait poussé à pouvoir initier une question orale avec débat au ministre de la Défense.
Merci beaucoup. Ma question a été motivée sur un constat simple. Le gouvernement, à l'époque, demandait le départ de la MONUC sur fond, sérieusement, de l'insécurité de l'ensemble du territoire. C'était à la suite de l'événement de Valdaka où une bande de 40 personnes de l'armée, essentiellement de Pouto et des Kamtas, ont pris la ville de Valdaka qui est le chef-lieu d'une région militaire. Et la situation de Valdaka est connue d'autant plus que les élèves venaient de plus ou moins 700 km et qu'on nous annonçait qu'ils étaient totalement défaits. Par ailleurs, sur l'ensemble du territoire, on nous disait qu'à Goma, dans les Antilles, tout allait bien, alors que les destinaires prenaient ville par ville et avaient changé les tactiques. On nous objectivement et plus particulièrement dans les ouvriers où les éléments continuaient, n'est-ce pas, à s'attacher à la population, à exécuter, et pour créer un débat sur les chiffres qui sont en fait totalement l'impudeur. Alors, nous avons demandé au Premier ministre de la Défense et nous dit quel est l'état de la réforme de notre armée et quelle est la perspective qui s'offre à nous face au départ sollicité de manière souveraine par ailleurs par le gouvernement. La réponse qui nous sont venues, je peux vous avouer, n'était pas satisfaisante, parce que dire que la situation est relativement calme ne suffit pas. Nous avons un problème et depuis 2006 jusqu'à ces jours, il n'y a aucun plan cohérent de réforme de notre armée.
Mais quand même, il y a eu ce projet de loi donc qui est encore au niveau du Parlement et ça pourrait quand même améliorer vraiment beaucoup de choses.
Oui, madame, il y a des questions qui ont été déposées, mais qui ont été déposées à la session de septembre. En septembre 2009. Et les débats ont commencé à ce moment. Nous, au niveau du Sénat, nous avons déterminé les débats sur le statut du militaire. Nous avons été assemblés à bord de la question de l'organisation et du professeur de France, et puis le texte sur la police. Nous n'avons pas encore un texte sur les autres services de renseignement civil, peut-être militaire, parce que les militaires sont inclus dans les forces armées. Mais depuis 2006, une question aussi prioritaire qui est amenée à l'Assemblée et au Sénat, pas de l'offre, et nous avons discuté du texte que vous connaissez, la longueur de la procédure parlementaire au mois de mars. Si nous avons la chance, nous pourrons peut-être l'adopter lors de la dernière session de notre législature en septembre, qui est pour une question budgétaire. Donc, pour moi, le gouvernement a fait preuve de faillite. Pendant 5 ans, on n'a pas pu réformer l'armée.
Il y avait aussi, sans oublier que notre pays était attaqué un peu partout, donc il fallait nécessairement aussi voir dans quelle mesure défendre le territoire national. Mais il faudrait dire aussi que quand même notre armée, au-delà de tout, a quand même été soutenue et continue à recevoir le soutien des coopérations bilatérales. Par exemple, il y a l'Union européenne qui continue à soutenir notre armée. Il y a plusieurs partenaires comme l'Angola, l'Afrique du Sud, la Belgique, où nous recevons en fait de la formation. Donc tout cela, ça permet en fait de pouvoir renforcer notre armée.
Oui, madame, nous avons la possibilité de renforcer notre armée avec l'apport de toute cette population. Nous devons nous-mêmes disposer d'un outil, d'un schéma, d'un plan dans lequel cette population vient de s'incruster. Sinon, ça devient un bric-à-brac qui n'a aucune cohérence. Vous voyez, les Américains forment un bataillon à Kisangani, mais je peux vous dire que la démarche n'est pas dictée par des intérêts purement congolais. C'est dans leur analyse stratégique qu'ils veulent avoir des partenaires dans l'état de ce qu'ils appellent la Chouipon. Oui, mais donc on fait former un bataillon à Canada qui est à Goma, qui est déguisé à Kindu. On nous annonce la formation par les Chinois d'une première compagnie à Kalemie, de la Carina. Et tout ça doit avoir un schéma cohérent. Sinon, nous sommes dans la situation de confusion actuelle. Il n'y a aucune utilité en matière de formation, en matière de motivation. Les droits sont importants, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de se lancer dans un plan et de commencer. Et vous avez souligné la situation de la permanence du conflit. Voilà pourquoi il y avait des actions à très court terme, la mise en place de la force de l'action rapide qu'il fallait considérer comme une priorité. Et d'autre part, le plan à long terme de 25 ans. Et tous ces deux éléments, on ne sent pas la cohérence. On a dit d'avoir vu, en séquence, Est-ce que c'est la question qu'on vous annonce, telle opération, telle opération à Mali,
si vous faites
des conclusions, même des questions.
Mais s'il vous plaît, monsieur le sénateur, nous vous gardons en ligne le temps d'écouter aussi d'autres auditeurs qui voudraient donner des proposer aussi et aussi faire des suggestions concernant le renforcement de nos forces armées.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Kyolou. Kyolou?
Oui.
Vous êtes ici à Kinshasa. Dites-nous, après 50 ans, selon vous, que faut-il faire pour renforcer notre armée?
Oui, vraiment, d'abord, merci pour cette parole. Depuis 50 ans, nous avons vraiment, je ne sais pas dire du mal pour notre armée. Nous avons toujours eu une bonne armée, nos militaires ont toujours été bien formés, mais ce que nous avons pu constater, c'est que notre pays, c'est comme si les gens ne nous aimaient pas. Vous serez en guerre avec notre pays, et il y aura des forces, des grandes puissances qui soutiendront d'autres pays, là, les adversaires ou nos adversaires. Donc vraiment, je demanderai à toutes les grandes puissances, vraiment, de toujours continuer de ne pas avoir de parti pris au cas où des pays ont des rancunes, de venir soutenir les autres. Non, vraiment, notre armée a toujours été forte.
Oui, mais vous savez que nous, que dans ce monde, nous vivons avec ce système de rapport de force. Mais quelles sont vos propositions pour que notre armée soit renforcée au niveau interne?
Oui, au niveau interne, ce que j'ai pu proposer, c'est d'abord qu'on puisse instaurer le système qu'on crée plusieurs camps de formation ici à l'intérieur du pays et qu'on puisse soutenir l'aide des Israéliens qui puissent venir à tout moment nous former.
Donc vous souhaitez qu'il y ait d'autres puissances qui puissent venir renforcer en fait la formation de notre armée, d'ailleurs ce qui est déjà fait parce qu'il y a déjà plusieurs partenaires bilatéraux qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir renforcer notre armée. Merci beaucoup Kyolou, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Ladis.
Bonjour Marie Chantal, bonjour tous les auditeurs de Radio Okapi.
Oui, vous êtes en Bougimaï. Quelle est la lecture que vous faites pour pouvoir renforcer notre armée?
Oui, merci beaucoup Marie Chantal. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais annoncer sur cet adage qui dit qu'une culture vaut ce que valent les hommes qui l'animent. Ça veut dire que notre armée, le problème de notre armée, ce sont les gens, la qualité des animateurs de cette armée. Comment est-ce que vous voulez avoir une armée forte dans un état fort, si d'abord au niveau du sommet de l'armée, les gens qui sont là ne sont pas les gens qui sont là.
Il faudrait beaucoup d'égards par rapport à vos affirmations, à vos confirmations. Est-ce que nous pouvons passer directement aux propositions?
Oui, Marie, j'attends de vous passer aux propos intéressants comme vous. Je ne veux pas que je puisse intervenir.
Mm-hmm.
Et si nous prenons l'exemple des États comme les États-Unis, la Chine, et la Chine a plus d'un milliard de la population et la taille de l'armée est proportionnelle à la taille de la population. C'est plus de 250 millions de militaires. Aux États-Unis, c'est plus de 5 millions de militaires à notre armée par rapport à la dimension de notre pays. Donc, on est connu qu'il faut voir la taille du pays, la taille de l'armée, la qualité des éléments et la qualité de l'équipement.
Mm-hmm.
Comment vous voulez qu'une armée soit forte au niveau de l'équipement? Il y a bien, vous trouvez les armes qui datent de la première main, mais ces armes sont encore utilisées aujourd'hui. Normalement, nous savons qu'une arme doit au moins exécuter 1500 coups. Mais aujourd'hui, vous trouvez les armes qui ont déjà dépassé ces 1500 coups, les armes qui ont travaillé en Europe utilisées, on nous envoie ça sur notre territoire pour que nous puissions nous défendre.
Donc, il faudrait moderniser en fait le matériel, que ce soit modernisé, qu'on puisse essayer de pouvoir avoir un matériel assez adéquat, c'est un peu ça votre préoccupation. Merci beaucoup.
Et aussi la qualité de l'armée,
la
qualité des éléments à recruter.
Merci.
Les gens qui sont déjà invalides, on recrute les gens invalides dans l'armée, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Mais il faudrait aussi rajouter par rapport à cela qu'il y a eu un recensement au niveau de nos forces armées, donc on est en train de recenser, on est en train de rajeunir en fait l'armée, donc il y a plusieurs processus qui sont en cours pour l'instant. Merci. la DIS à partir de mouvements, surtout vos propositions. Vous pensez qu'il faudrait une formation adéquate aussi, essayer de moderniser en fait le matériel que vous pensez qui est assez vétuste. Nous allons au Vira où se trouve Séraphin. Bonjour Séraphin.
Oui, bonjour Madame Marie-Chantal.
Monsieur Séraphin, quelles sont vos propositions pour pouvoir renforcer notre armée?
D'accord, merci de la parole que m'a accordé, mais j'aimerais d'abord saluer votre invité, et non seulement comme invité, comme un hiérarchie aussi, quand je fais partir du parti politique auquel je suis fait partir.
Alors, nous parlons de parti politique, s'il vous plaît, nous parlons
non, de... Non, bon, je dis que le salut d'un peu franchement, permettez-moi, excusez-moi alors.
Oui, vraiment, c'est pas vraiment assez, c'est pas la tribune pour ça, et c'est pas l'émission pour cela, donc passons directement à vos propositions.
Ok, merci. C'est pourquoi je me suis d'abord excusé au préalable. Mm-hmm. Alors moi, je voudrais dire ceci. Il y a d'abord un problème du taux élevé des officiers dans notre armée. Madame, dans un tel pays du monde où vous verrez une armée reconstituée en majorité par les officiers et les sous-officiers, dans un tel pays du monde, seulement au Congo, où nous avons au moins 63% des officiers et sous-officiers, qui seront maintenant les hommes de troupes ou du terrain, si tout le monde est officier, personne. Donc moi je voudrais d'abord à ce qu'on puisse d'abord chercher à réaliser ou à chercher à modifier d'abord le grade de certains militaires. D'abord, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudra qu'il y ait l'implication de tous dans l'armée. Donc si je dis l'implication de toutes les tribus, parce que c'est inconcevable que nous avons les grands militaires formés dans de très bonnes écoles ou académies militaires, que le FM Mobutu avait dépensé des sommes colossales de ce pays pour leur formation. Mais qui sont abandonnés actuellement à leur triste sort parce qu'ils sont originaires de telle province, de l'Équateur, ou soit ils ont combattu à côté du feu maréchal Mobutu ou à son excellence du côté de ses empires Bemba.
C'est
donc il faudrait d'abord l'implication de tout le monde, donc de toutes les crédits. Ce n'est pas pour rien que vous puissiez dépenser une somme colossale pour la formation de ces militaires. Il faudrait que ces militaires ne soient pas abandonnés à leur triste sort parce que ce sont les vrais militaires, ils ont fait même la preuve de leur valeur. Je voudrais aussi dire, il y a encore une chose qui me vient à tête, hein, qui gangrène aussi notre armée. C'est le problème d'homogénéité de l'armée. On ne peut pas avoir une armée forte et dissuasive lorsque cette dernière contient des éléments grandis. Non, il y a des éléments qui viennent de gagner et donc on ne peut pas avoir une armée forte.
Nous parlons des, nous allons aux propositions. Au-delà de toute la crise qu'a traversée notre armée, au-delà de tout ce qu'elle connaît aujourd'hui, ce que nous voulons, ce sont des propositions constructives. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème, on ne pourrait pas se voiler la face, mais allons-y directement aux propositions. Qu'est-ce que vous proposez? Une formation plus adéquate? Qu'est-ce que vous proposez, en fait? N'allons pas dans ce qui s'est passé, parce que 50 ans sont passés, et maintenant nous voyons l'avenir. Donc, il faut essayer de voir plus loin, ce que nous voulons. C'est un peu ça le cadre de notre émission d'aujourd'hui.
Donc, moi je pense que nous avons d'abord une armée homogène. Il faut croire que nous ayons aussi une armée et non qui doit avoir un effectif élevé des officiers, mais plutôt des troupes de terroir. Et il faut croire qu'il y ait l'implication de tout le monde, de toutes les tribus dans notre armée. Il ne faudrait pas qu'il y ait certaines personnes qui sont marginalisées parce qu'ils sont combattus à côté. Il faut qu'on les récupère tout le monde là. Tous ceux qui sont arrêtés illégalement, il faudra qu'ils soient intégrés parce qu'ils sont des militaires bien formés. C'est ma proposition.
Merci beaucoup, Séraphin. Vous êtes à Ouvira pour votre participation à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous avons gardé le sénateur Jacques Joly qui est toujours en ligne. Il va intervenir tout juste après Joseph de Kinshasa. Et nous attendons toujours notre invité. Il s'agit de M. Mohamed Boulay, les députés nationaux et en fait général à la retraite des forces armées de la RDC. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour.
Oui, Joseph, vous êtes à Kinshasa. Quelles sont vos propositions pour pouvoir renforcer en fait notre armée?
Oui, merci pour l'opportunité que vous me donnez de passer sur les antennes de Radio Okapi.
Mm-hmm.
Au-delà de tout ce qui vient de se dire déjà par mes prédécesseurs,
mm-hmm.
il faut que je dise à l'intention de ceux qui nous écoutent que nous devons d'abord savoir définir les objectifs en fait de ce que nous voulons par rapport à l'animation de notre pays. Donc, on définit les objectifs d'une armée dissuasive. Je crois que sur le plan des idées, des experts sont là, ils savent ce qu'on doit faire.
Mm-hmm.
Et il faut qu'il y ait une bonne volonté de ceux qui sont chargés de mettre en place tout ce qu'il faut, l'armement, en fait l'équipement, pour chaque type de force, force terrestre, force navale. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir si réellement la force navale a tel équipement, force terrestre, ainsi de suite. Et la grandeur, je crois que quelqu'un l'a dit déjà par rapport à la dimension des pays qui existent, c'est comme la Corée du Nord. Nous n'allons pas nous aligner sur le nombre, en fait l'effectif de son armée, parce que un pays avec 22 millions d'habitants qui dispose d'une armée de plus d'un million d'habitants, ce n'est pas cela, mais par rapport à la dimension de notre pays, ce n'est pas qu'il y ait toujours une implication des experts extérieurs, comme si nous n'avons pas des gens qui réfléchissent par rapport à nos besoins réels ici sur le pays pour limité à un peu moins de 150 000 hommes. Vous voyez, avec un pays exceptionnel, entouré de 9 pays, ça n'existe, il n'y a pas...
Donc vous pensez que pour renforcer l'armée, nous pouvons le faire nous-mêmes. C'est un peu ça votre proposition?
Oui, nous pouvons le faire nous-mêmes, bien sûr, avec l'appui des offres. Et le réinvestissement doit tenir compte, permettez-moi, le réinvestissement doit tenir compte d'une certaine élite. En fait, on ne peut pas aligner des voyous qui viennent ternir l'image. En fait, je me rappelle au début des années 97-98, on a eu des gens qui sont venus d'ailleurs, des universités qui avaient été recrutés pour les besoins de la cause, et ils sont venus très vite après avoir suivi une formation à l'extérieur. Ils nous ont dit qu'ils étaient même là-bas en compagnie des militaires américains qui eux aussi sont allés en formation vers ces coins-là, parce que c'est une question de sécurité, je crois qu'il n'est pas nécessaire de révéler
toute l'histoire-là,
mais c'est ce qui est encourageant. On doit avoir une armée dissuasive des gens qui sont capables, et avoir aussi des centres de recherche sur nos territoires, des camps reconstruits, des habitations. Ils doivent aussi veiller sur les conditions, là c'est déjà dit par un maître de tout, ils doivent prendre en compte tous ces aspects-là, la dimension sociale en fait.
Merci beaucoup Joseph, vous êtes ici à Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, monsieur le sénateur Jacques Joly. Beaucoup de propositions, de suggestions, et aussi ce que les gens pensent pour pouvoir renforcer notre armée. Nous savons que tout cela demande des moyens, demande de l'argent, un budget conséquent. Par rapport à cela, quelle est votre réaction?
La première réaction, c'est d'abord de comprendre que la mise en place d'une armée est d'abord une affaire de volonté politique. Il faudrait que le pouvoir politique sache exactement, pas simplement sur le plan formel, mais dans son fond, dans son agir, qu'est-ce qu'il veut avoir comme système de protection. Et à ce sujet, pour avoir une armée démocratique, il faut d'abord avoir un système démocratique. Mais un système qui dérive vers l'approche présidentialiste ou démocratique ne peut jamais avoir une armée démocratique. C'est une inadéquation. Donc, il faut d'abord que nous voulons savoir, que nous disions, est-ce que nous voulons la démocratie? Et à ce moment-là, nous mettons les mécanismes pour une armée démocratique. Mais si le système fonctionne comme un système proche des régimes post-autocratiques, eh bien, nous aurons un conglomérat d'hommes qui ne sont là que pour servir ces régimes.
C'est
la première question qui pose les autres. Deuxième question, maintenant, l'équation technique, parce que la première est politique. Comment on procède? Les amis l'ont dit, il faut faire l'état des lieux. Aujourd'hui, nous aurons, on demande entre 35 000 hommes. Mais il faut d'abord avoir une réforme globale. Il comprend quel est le rôle de l'armée, de la police, des services de sécurité et même de la justice. Parce que l'armée s'inscrit dans le système.
De toute façon, monsieur le sénateur, il faudrait bien commencer quelque part. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait attaquer tous ces domaines-là en un coup ou bien commencer d'abord quelque part?
Il faut une approche symphonique, mais qui est progressive. C'est le mécanisme qui voit l'ensemble, mais progressive qui est planifié. C'est-à-dire, comme on l'a dit, qu'on avait commencé en 2007, 2008, en 2010, 2011, on devait voir ce qui était fait. Donc, jusqu'à présent, on est encore dans la recherche des questions conceptuelles. Bon, c'est l'instant. On dit, voilà, nous avons 165 000 hommes, et dans les 165 000 hommes, il y a plus ou moins la moitié qui est éligible à la retraite ou à l'inaptitude. Il faut de l'argent. Or, aujourd'hui, on ne connaît pas l'effectif normal, Et si on connaît cet effectif, il y a plus ou moins la moitié qui est là pour au pouvoir. Alors, c'est quoi le jeu de cette équation-là? Deuxièmement, la question, et donc, à part la question de droit, la question de concept. Quel état nous voulons? Quel est le modèle d'arbitre que nous devons définir?
Oui.
Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que d'avoir la peine de voir ça sur 35 000 hommes mal habillés, mal équipés, ou de faire prendre la force publique avec 12 ou 13 hommes internés, équipés, motivés?
S'il vous plaît, monsieur le sénateur, est-ce que c'est possible que vous puissiez un peu vous déplacer? Parce qu'apparemment, la qualité de son, la communication est en train de se détériorer, donc on n'arrive pas à vous suivre, c'est un peu entrecoupé. Le temps que vous puissiez vous déplacer, nous allons vous reprendre tout juste le temps d'écouter aussi Papa Issa, qui est ici à Kinshasa, et Charles de Lubumbashi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Papa Issa.
Oui.
On vous écoute. Quelles sont vos propositions 50 ans après, selon vous, que faut-il faire pour renforcer notre armée?
Oui, bonjour d'abord à tous les auditeurs de l'OCAPI, en longue vie. Ma préoccupation est ceci. Il y a un adage qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, mais que les mauvais chefs. L'armée n'est pas une poubelle où on peut ramasser, excusez-moi pour le mot, prendre même les couronnes pour les règlements de compte.
Mais quelles sont vos propositions pour améliorer, pour renforcer? Parce qu'en fait, la sécurité nationale, ça nous intéresse tous. Ce qui arrive à l'est peut arriver à l'ouest et ainsi de suite. Donc chacun de nous a une responsabilité. C'est pour ça aujourd'hui on en parle pour des propositions constructives. Nous savons que l'armée a des problèmes, comme dans tous les secteurs. Et quelles sont vos propositions pour renforcer?
Ma proposition est ceci. Quand je parlais de Corona, c'est-à-dire qu'il faut prendre les militaires, les militaires de l'armée, les former et puis les distinguer avec le tenir, parce qu'il y a des fois où vous verrez un militaire en tenir la police et il y a une confusion qui vient là-dedans. Et les éloigner des résidences, les mettre un peu plus loin, parce qu'un militaire, sa spécialité c'est la tuerie, il ne peut pas rester à côté des gens. Donc une formation permanente, des séminaires de sages. Merci.
Oui, mais il ne faudrait pas oublier, hein, monsieur Papa Issa, qu'en fait, que l'armée, en temps de paix, elle a aussi d'autres obligations. Elle participe au développement, elle participe au développement, au renforcement, et donc l'armée, ce n'est pas seulement en temps de guerre, en temps de paix, elle participe au développement social, culturel, aussi à la protection des personnes et de leurs biens. Merci beaucoup, Papa Issa. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Charles.
Bonjour madame.
Charles, on vous écoute.
Oui madame, à ce qui concerne la réforme de l'armée, moi madame, je dirais tout simplement que on est en train de, chaque fois qu'il y a un chef d'État qui entre, il balaye avec les réserves de l'armée, il prend tous ceux qui sont derrière lui. Il est maître, il est leur donne comme colonel, général, major, capitaine et consort, au détriment de ceux qui sont bien formés, madame.
Ça, c'est votre analyse. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait pour renforcer notre armée?
Ce que je pense, madame, comme proposition, il fallait d'abord tenir compte des formations. Il y a les anciens militaires qui sont très, très bien formés par Mobutu, qui sont en train d'être inquiétés, éliminés, je ne sais pas moi, ignorés, mis dans des garages, au détriment des scouts qui n'ont aucune formation possible pour affronter les armées ou autres formes de...
Mais n'oublions pas, Charles, que nous avons traversé plusieurs guerres et dans le cadre de la pacification, il y a eu des concessions qui ont été faites pour pouvoir avoir la paix dans notre pays. Il ne faut pas oublier d'où on vient.
Oui, c'est faux cela, mais c'est madame, c'est tout le monde qui sera maintenant général. Moi aussi, aujourd'hui, j'étais me proclamer sur une rue, je suis le général, vous allez me prendre en compte. Même c'est... les fous, vous voyez là, qui prend une arme, vous l'appelez général.
Bon, c'est vous qui le dites, mais maintenant, quelles sont vos propositions pour pouvoir en fait renforcer
ces armées? Il faut d'abord considérer tous les ex-phases avec leur mérite, les brevets. Il y a des brevetés d'État, il y a les académiciens, mais qui sont au garage et qui sont restés à leur triste sport, sans aucune considération. Et on est en train même de les intimider, certains sont en train de les balayer ailleurs.
Merci beaucoup, Charles, pour votre intervention à partir de Lubumbashi sur ce sujet concernant le renforcement en fait de notre armée. Bonjour, Fina.
Bonjour, madame.
Oui, Fina, vous êtes à Kindu, on vous écoute, quelles sont vos propositions?
Oui, c'est vraiment un sujet très capital qu'on puisse aborder aujourd'hui, comme 50 ans après l'indépendance du Congo, notre armée reste jusque-là fragile. Mais au cours de cette proposition, moi personnellement, je pensais que avec les retraits précipités de la Monique, c'est vraiment une déception. On croyait qu'avec la Monique, ça va, parce que la Monique pouvait s'en charger à former aussi. Notre armée, la morale qui règne au sein du cadre est presque bien aujourd'hui. Alors, nous pensons que c'est vraiment une morale qui, aujourd'hui, au sein de la FRDC, ça peut aussi contribuer. Et surtout, madame, n'oubliez pas une chose, hein, nous sommes congolais. Ça aussi, un autre aspect que nous devons toujours oublier, c'est un aspect que le fétichisme, vous savez, aujourd'hui, avec le groupe d'armées, par exemple, ce qui les anime surtout, hein, nous avons les Maïmaï, les rebelles qui sont de gauche à droite. Alors, avec cet aspect-là, ça contribue, nous pensons que si on adoptait aussi cela dans l'armée, ça peut contribuer à la rigidité de notre armée.
Merci beaucoup, Fina, pour votre intervention. Mais il faut rappeler quelque chose. Vous avez dit que la MONUC est en train de partir. En fait, c'est une nouvelle mission de l'ONU que nous aurons en RDC à partir du 1er juillet. Ce sera la MONUSCO. Donc, il y aura un nouveau mandat. Donc, même si la MONUC part, mais il y a la MONUSCO qui sera en RDC avec, bien sûr, presque le même mandat de la MONUC, protection des civils, soutien des forces armées. Donc, autant de choses qui vont continuer, se perpétuer en vue de la stabilité de la RDC. Notre invité a fait son entrée, il vient d'arriver dans notre studio, peut-être qu'il est tombé dans les embouteillages parce que tout ça, ça ces derniers temps, c'est assez compliqué. Monsieur Mohamed Boulet, vous êtes député national et ancien général à la retraite des forces armées nationales. Nous allons vous donner la parole, le temps d'écouter aussi qui est à Sananga, donner son avis, ses propositions en vue de renforcer notre armée.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Madame Chantal.
Oui Mathieu, bon. Quelles sont vos propositions?
D'abord Madame, avant de répondre à cette ben rocambolesque qui dure de depuis belle lirette, concernant la sécurité dans notre pays en général et de notre armée en particulier, d'après moi, jusqu'à ce moment où je vous parle, madame, je déclare sans mâcher le mot que la crise démographique.
S'il vous plaît, Mathieu, il faudrait savoir que c'est vrai que dans tous les secteurs de la RDC, tous les secteurs ont connu une crise, la situation est telle qu'elle, et aujourd'hui nous parlons plus de l'avenir. Donc nous avons besoin plus des propositions. Nous savons tous les problèmes qui existent, mais allons-y aux propositions.
Bon, je demande au gouvernement de ce pays de continuer la lutte pour que ce pays devienne un pays démographique, à l'exemple des autres nations surtout, pour ce temps que nous sommes en train de débattre en ce moment, concernant la sécurité et l'armée. Tous les anciens officiers de l'armée doivent être respectés, madame, et remplacés par les cadres universitaires qui ont subi une formation dans d'autres pays, qui doit être le cas dans tout le reste des services de l'armée.
Merci beaucoup, Mathieu. Pour vous proposer en fait qu'on puisse tout changer, qu'on recommence à zéro, que les cadres universitaires puissent prendre la place. Bon, ça c'est votre proposition et parole aux auditeurs est là pour qu'on échange hein, les propositions et suggestions de tout un chacun. Et merci pour votre participation. Nous prenons Jacques Joly pour aussi le libérer parce que quand même il était là depuis le début de notre émission. En bref, 50 ans après, selon vous, en bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer notre armée?
Madame, si d'abord nous sommes tous d'accord que nous voulons une armée nationale, revendiquée, susceptible de protéger les droits et libertés. Cette volonté-là est le premier élément. Deuxième élément, nous engager à construire cette armée-là en définissant la pensée de cette nouvelle armée, donc la doctrine, en définissant l'homme qui va servir dans cette armée et en donnant à cet homme les cadres matériels pour les équipements nécessaires. Il va de soi qu'on va définir le format, combien d'hommes, en adéquation avec notre population et nos moyens économiques, avec l'apport de la population.
Merci.
Donc il faut une démarche rationnelle et non le schéma attrape tout et des erreurs qui se font actuellement.
Ça, c'est votre pensée, c'est vous qui le dites, c'est votre avis. Merci, Monsieur Jack Jolly, pour votre intervention. Je rappelle que vous avez initié une question orale avec débat au niveau du Sénat à l'endroit du ministre de la Défense nationale concernant, en fait, cette question de sécurité. Et nous allons donner la parole à notre invité qui, comme je vous l'ai dit, qui vient de faire son entrée. Vraiment, ça a été difficile, Monsieur le député. Les embouteillages à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je suis
oui. Aujourd'hui, en fait, nous parlons d'un sujet assez sensible, assez délicat, mais nous en parlons quand même parce que la sécurité est un bien public. Chacun d'entre nous a une part de responsabilité, un rôle à jouer, malgré que la Constitution stipule que les forces armées ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières, et en temps de paix, elles participent au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection des personnes et leurs biens, sans oublier, bien sûr, le rôle de la police, qui est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Nous avons eu plusieurs auditeurs depuis le début, chacun a donné son avis, beaucoup ont fait allusion à la formation, ont fait allusion à la rigueur, à la motivation, ils ont fait aussi allusion aux sanctions, sans oublier aussi l'encadrement, donc le logement, la solde des militaires, avoir des camps un peu éloignés de la résidence de la résidence de la population. Donc il y a eu autant de propositions pour renforcer notre armée. Mais selon vous, vous êtes un général en retraite, donc vous connaissez très bien ce domaine-là. 50 ans après, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer notre armée?
50 ans après, pour renforcer notre armée, vous savez que cette armée s'est construite sur les cendres de la force publique qui a vu les jours le 5 août 1888. Et alors, avec les différentes mutations, passant après l'indépendance de l'armée nationale congolaise aux forces armées de la République démocratique du Congo, pas que jusqu'à ces jours, nous devons être courageux. Il faut une bonne politique de défense. Cette bonne politique ne peut se faire que sur base des textes et des lois. Et maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, certains textes et lois sont déjà prêts pour être adoptés en première lecture dans notre chambre et en deuxième lecture au Sénat. Et certainement, lorsque ces lois-là seront adoptées et promulguées par le chef de l'État, c'est ce qui donnera les nouvelles bases et il y aura des éléments de réponse qu'on trouvera en ce qui concerne les autres aspects liés aux conditions, au recrutement, et cela, ça fera partie de ce que nous appelons la loi portant organisation générale du statut des militaires. De la même manière, sur la police aussi. Mais tant que ces lois-là ne sont pas encore votées, évidemment, les lois ordinaires ou les lois organiques, après la promulgation de cette constitution, ont beaucoup traîné pour être examinées, parce que l'initiative des lois passe en même temps. Et au gouvernement, et à chaque député et sénateur que nous sommes. Et donc, d'un côté, il y a eu un grand retard, parce qu'il n'est pas normal que 3 ans, presque 4 ans après, qu'on ait promulgué la constitution et dans cette mandature, que rien ne soit encore fait pour vraiment courageusement donner un nouveau souffle par ces réformes pour attendre, parce que tout cela sera réglé, la retraite et tout ça, la formation, ces aspects des choses trouveront leur réponse dans les statuts, que nous voulons vraiment un statut qui puisse servir les intérêts du militaire.
Oui, et comme nous savons, ça demande un budget assez conséquent. La dernière fois, au niveau de l'Assemblée nationale, lors du passage du ministre de la Défense nationale, lors de la présentation même de ce projet de loi sur la réforme de l'armée, il avait en fait signalé qu'il faudrait des centaines de milliers de dollars. Comment est-ce que vous pensez que la RDC pourrait réunir ce montant pour pouvoir reformer son armée?
C'est vrai, ce n'est pas avec le budget national qu'on peut espérer faire des réformes de cette nature-là. Et donc, les gabarits de l'armée, les militaires ont un coût journalier pour ses soins, pour tout ce qu'il faut pour son entraînement et également pendant les opérations, il faut se préparer correctement parce que nous avons 10 721 km de frontières communes avec 9 pays voisins. Ce n'est pas avec ces budgets. Le ministre est à pied d'œuvre, me semble-t-il. Parce que, constamment, si ces lois-là sont votées, promulguées par le chef de l'État, c'est alors que, à l'exercice, par exemple, à l'exercice septembre, qui est une session extrêmement budgétaire, le ministre, outre le budget national qui est déposé et défendu au niveau de l'Assemblée nationale, chaque ministre du domaine, je veux dire le ministre de la Défense, et celui de l'Intérieur qui a le droit sur la police nationale, devront et donc préparer ce qu'on appelle la loi de programmation. Donc c'est une loi pluriannuelle qui renferme tous ces aspects-là pour voir la projection qu'on veut faire ces 5-10 ans, qu'est-ce qu'il faut en termes des acquisitions des équipements majeurs.
Les priorités.
Les priorités. Et à ce moment-là, lorsque cette loi-là est votée, en même temps que la loi budgétaire, c'est au gouvernement, par sa politique extérieure, d'aller toquer pour rechercher des bailleurs de fonds à financer la réforme par les acquisitions, la construction des camps, tout cela.
Donc, nous avons déjà l'armée en fait bénéficie en fait des partenaires bilatéraux en ce qui concerne certaines phases de son encadrement, de sa structuration. Par exemple, nous avons l'Union européenne, l'Angola, l'Afrique du Sud. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu chacun vient à sa manière, ce n'est pas vraiment assez coordonné?
Mais justement, il faut une méthodologie, il faut une très bonne coordination, madame. Et tout cela, ça, ce sont pour le moment, ce sont des actions que moi, je pourrais me permettre d'appeler ponctuelles pour nous voir maintenant, nous doter de ces textes et des lois, de voir avec une très grande visibilité, un chronogramme bien précis pour fixer les priorités. Et en ce moment-là, lorsqu'on demande le financement des bailleurs de fonds, des partenaires, on sait comment ça va se passer, on sait comment focaliser.
Nous allons écouter aussi Gaston. Ça, ce sera notre dernier auditeur de cette émission. Bonjour Gaston.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio en France.
Et quelles sont vos propositions pour renforcer nos forces armées de la RDC?
Moi, je pense que madame a droit de tout le monde, a droit de problèmes de moyens, a droit de problèmes de comportement de militaire. Et pour moi, les propositions sont celles-ci. Comme on a toujours dit, toute phrase n'est pas un slogan, c'est une transition. Il n'y a pas de mauvais procès, c'est bien que de mauvais choses. Ce sont des choses qui sont dans l'armée qui ne sont pas.
Je crois que on ne vous suit pas très bien. En tout cas, la qualité n'est pas très bonne. Hein. Est-ce que je pouvais un peu vous déplacer en une minute? Oui, Gaston,
oui,
vous écoute.
Oui, je disais, hein.
Allô? On vous écoute, Gaston. Vous êtes
oui, au-delà, oui, au-delà de ce problème, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Quand nous devons avoir des chefs des armées, et pour les nommer d'obtenir contre la territoriale, que nous fions de tels crédits, là, on ne peut pas avoir une bonne armée. Donc, pour moi, ce sont les chefs qu'il faut. Il faut une réforme au niveau des chefs de toutes ces armées-là.
Merci.
Parce que le truc, l'armée, je crois, c'est le secteur où il y a plus d'ordre et d'exécution. Dans l'armée, on exécute d'abord, même si on ne comprend pas l'ordre. Donc, tout ce qui se passe, c'est une situation que nous comprenons dans le pays, c'est dû aux ordres et instructions qui sont données par le chef. Le problème n'est pas au militaire, c'est que les dirigeants, les responsables de ce militaire-là,
qui amène la sécurité dans ce pays.
Merci beaucoup Gaston, ça c'est votre avis. Vous pensez qu'il faudrait encore une fois recycler, si je pouvais dire ça comme ça. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Notre invité, vous avez suivi en fait le propos de Gaston. Il y a eu d'autres qui sont revenus là-dessus. Concernant la formation, il y a d'autres qui ont préféré une formation par l'expertise nationale et n'ont fait recours à l'expertise étrangère, et d'autres ont préféré l'expertise étrangère et non l'expertise nationale. Qu'est-ce qui serait bon pour notre armée, selon vous?
L'expertise nationale, madame, nous en disposons. Moi, je suis un ancien, je connais du métier, parce qu'en son temps, on a formé les militaires dans tous les domaines, dans toutes les spécialités. Allant du Brésil, la fonction, disons, la formation la plus élevée, la fonction universitaire, licenciée en sciences sociales et militaires, c'est le brevet d'état-major, le brevet d'administration militaire. Ici, à Kinshasa, il y a le technicien d'état-major. Et rappelez-vous, en son temps, nous avons, nous, République démocratique du Congo, les forces armées, nous avons dispensé, au travers de nos centres d'instruction à Kitona, à Kotakoli, des formations pour d'autres pays étrangers. Je peux citer le Rwanda, je peux citer le Sénégal, je peux citer le Togo et bien d'autres.
Oui, mais au niveau de Canada, il y avait l'école des formations
la famille militaire qui a accueilli plusieurs
officiers de l'Afrique centrale.
Même ici, au centre supérieur militaire, laissez-moi vous dire, madame, il y a eu des officiers supérieurs de l'armée américaine qui sont venus ici pour suivre leur formation. Ce n'était pas facile pour obtenir le diplôme. Et tout ça, l'expertise existe. Mais il faut de toute façon rajeunir aussi. Donc, ces problèmes, nous prenons ça à cœur et nous disons, dans ces lois attendues, sur tous les statuts, c'est dans les statuts qu'on trouvera tous ces aspects-là pour donner les réponses à cet élément-là. La représentativité des provinces et tout ça est tenue aussi compte déjà, parce que madame, il faudrait également que vous soyez pris en compte et que vous soyez représentés et sécurisés.
Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes député national, mais aussi général en retraite des forces armées de la RDC.
Allô? Allô?
Merci aussi aux auditeurs. Nous nous retrouvons demain, ce sera à 10h de Kinshasa, et nous allons parler du don du sang en marge de la Journée internationale des donneurs de sang. Quelle est la situation chez vous et que faire pour un approvisionnement régulier des banques de sang? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant l'adresse internet pa@radiotapi.net. Kiki Mpoutou, Nicole Gaka sont à la réalisation de cette émission et Guimane Gangou est à la mise en œuvre. C'est rester branché sur Radio Capi pour la suite de son programme.